Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
À voix nue, Caroline Brouet,
Laure Adler, journaliste, autrice, féministe.
Premier épisode, les rues de Conakry et les places de Paris. Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
Alors vous avez dit journaliste, éditrice, biographe, essayiste, productrice de radio et de télévision, aurait-on pu dire aussi, étudiante, puisque depuis que vous avez quitté la radio en 2023, vous avez repris des cours à l'université. Aussi féministe, femme engagée, en effet, pour les femmes, pour la culture, passionnée de philosophie, d'histoire, de théâtre, d'énormément de choses en fait. Vous avez quitté la radio donc en 2023, après 50 ans à Radio France, et vous publiez en 2024 un recueil de livres, de textes et d'entretiens aux éditions Bouquin. C'était donc, avons-nous pensé, le moment d'enregistrer une série à voix nue, même si c'est un peu étrange parce que pendant longtemps vous avez occupé cette place, qui est la mienne aujourd'hui. J'ai intitulé cette série « Un seul âge vivante ». C'est une phrase d'Agnès Varda, à qui vous avez consacré une biographie illustrée. Je l'ai intitulée comme ça en me disant que cette phrase vous allait bien. Est-ce que c'est vrai ?
Bah, en tout cas, oui, vivre, essayer de continuer à vivre du mieux qu'on peut, retenir la vie, c'est le titre que j'ai adopté et choisi pour le recueil des livres que j'ai publiés.
Chez Bouquin ?
Oui, la vie avant tout, par-dessus tout, le bonheur de vivre, le désir de vivre, la fureur de vivre, mais pas la vie à n'importe quel prix en même temps.
Ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire que dans un moment de notre société où on se pose la question de la fin de vie, ces problématiques m'intéressent au plus haut point. Comme beaucoup d'autres, j'y ai réfléchi. J'ai eu la chance d'avoir un enseignement là-dessus d'éthique. Et effectivement, je crois que c'est un des grands problèmes de notre société, c'est savoir comment on veut continuer à vivre, comment on peut continuer à vivre, mais pas la vie à tout prix, quoi.
J'ai un peu hésité, à vrai dire, avec Roqueuse du PAF. Je me suis dit que c'était...
Ah, mais je préfère.
C'est vrai. En même temps, je me suis dit que c'était presque trop réducteur, pas assez intellectuel pour vous. Mais est-ce que vous êtes rock, Laure Adler ?
Oui, je suis rock, mais je suis aussi rumba congolaise. Je suis tango, je suis twist. C'est ce que je danse le mieux, je crois. Je vais jusqu'en bas et je remonte vers l'arrière, jusqu'en haut.
Enfin, ça, vous allez nous en parler parce que c'est peut-être pas complètement étranger à l'enfance que vous avez eue. C'était pas au Congo, c'était en Guinée, à Conakry d'abord, où vous êtes partie à l'âge de 6 mois, en 1950, avec vos parents, puis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, un peu plus tard. Quelle part a joué cette enfance en Afrique pour vous ?
Ben, elle est déterminante, je crois encore aujourd'hui, parce que quand vous habitez loin de l'Europe, dans un endroit au milieu de la nature, quand vous habitez au milieu d'une végétation qui vous enserre et dont vous avez l'impression qu'elle vous englobe à l'intérieur de votre propre être, vous n'êtes pas distingué de cette nature. Et d'ailleurs, je me souviens que quand j'ai lu les premiers livres de Bruno Latour, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, il est en train d'expliquer avec des mots philosophiques ce que j'ai vécu quand j'étais enfant. Nous vivions, mes sœurs et moi, complètement dans la nature, dans un jardin merveilleux qui donnait lui-même sur l'océan. Et d'autre part, mon père était ingénieur agronome, donc la terre comptait beaucoup pour lui. Je suis l'aînée d'une famille de 3 sœurs et à moi m'est échue cette responsabilité de savoir ce qui pouvait germer, comment les graines allaient pouvoir éclore. Et toute petite, mon père m'a donné une parcelle de terrain. Et donc, la nature était quelque chose qu'il fallait apprendre, qu'il fallait respecter, avec qui il fallait vivre, avec qui on pouvait parler aussi. Autre expérience, mon père partait pour son travail pas seulement à l'intérieur de la capitale, Conakry, mais partait aussi parcourir les routes du Fouta Djallon et d'autres provinces de la Guinée, qui est un pays absolument sublime de beauté et de diversité de paysages. Et donc, je partais avec lui dans sa 403 et nous allions arpenter ses terres et il m'expliquait comment les arbres poussaient, comment les plantations pouvaient s'épanouir, etc. Et mon père aussi m'a amené très jeune à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Et il y avait une station très importante pour toute l'Afrique de l'Ouest à l'époque, qui était située à Kindia. Et dans cette agence de l'INRA, beaucoup de chercheurs, botanistes, anthropologues du végétal, si j'ose dire, travaillaient à faire des greffes végétales dans des grandes serres au milieu de cette végétation qui était encore plus luxuriante qu'à Conakry. Et c'est ainsi que j'ai connu, très jeune, et ça nous a beaucoup fait rigoler plus tard quand, par les hasards de la vie, nous nous sommes retrouvés. J'ai été, quand mes parents partaient en vacances, j'ai été recueillie chez Alain Robbe-Grillet, qui était ingénieur agronome aussi à Kindia et qui m'accueillait avec son épouse quand mes parents partaient un peu.
Vous parlez de l'amour des plantes. On est chez vous, à Paris, il aura de l'air. Il y a beaucoup de plantes, en particulier derrière moi,
oui,
des plantes
oui,
grasses.
Oui.
Vous vivez entouré de plantes quand même.
Ouais, mais je peux pas m'en passer, oui. Mais si vous venez dans mon autre maison, il y en a encore plus.
Qui était où était ?
Bah, c'est le monsieur qui s'est occupé de moi et qui s'est occupé aussi de ma sœur, Véronique, qui nous parlait, qui nous expliquait la cosmogonie, qui nous expliquait les mythologies. C'est avec lui que j'ai commencé à apprendre à parler. C'est avec lui que j'ai commencé à apprendre à regarder le ciel. C'est avec lui que je passais mes soirées parce que mes parents, comme tous les blancs, entre guillemets...
Il faut rappeler qu'à l'époque, les deux pays, enfin la Guinée, mais aussi un petit peu plus tard, la Côte d'Ivoire où vous êtes allés, étaient des colonies françaises.
Oui, et donc mes parents sortaient beaucoup, et Ouété s'est occupé de moi, c'est mon second père. Donc il m'a laissé beaucoup de choses, et il vivait là, il vivait dans le même endroit que moi, donc je lui dois beaucoup, encore aujourd'hui.
Et votre mère ? Dans votre dictionnaire intime des femmes, vous dites de ma mère, je ne sais pas grand-chose.
Ben, ma mère a eu l'impertinence, parce qu'à l'époque, c'était absolument incroyable, juste après la guerre, alors qu'elle avait été élevée dans un milieu très catholique et très traditionnaliste, de partir sans demander l'autorisation à ses parents, en Afrique, avec mon père... Ils ont eu un coup de foudre à Paris. Ma mère venait plutôt de Normandie. Ils se sont retrouvés à Paris. Ils sont partis en 45 en Afrique. Ils se sont mariés quelques années plus tard. Et ma mère était très... Bah, elle a été éduquée comme ça. Et moi aussi, j'ai été éduquée comme ça.
De façon un peu stricte ?
Oui, non, mais surtout, on parle pas de soi. C'est pas bien de parler de soi.
Je vous violente un peu, là, alors.
Ben oui, oui. Moi, j'aime pas du tout ça. J'ai été éduquée dans cette optique-là. On n'existe pas beaucoup, on dépend des autres, on est inséré dans un tissu humain et faut plutôt penser aux autres qu'à soi. Et j'ai été élevée dans cette éducation. Et donc, ma mère parlait très peu d'elle. Ce n'est que vers la fin de sa vie, quand elle a commencé... à découvrir le travail, parce que ma mère a commencé à travailler à 70 berges. Et elle arrêtait pas de me dire, mais je comprends pas pourquoi j'ai passé mon existence à ne pas travailler, même si elle faisait beaucoup de choses à titre bénévole, elle allait dans les prisons, elle faisait des cours d'alphabétisation, etc. Mais tout ça n'existait pas en dehors de cette joie qu'elle a eue de se sentir responsable dans un travail qui l'a épanouie. Donc, à 70 ans, elle s'est libérée. Mais c'est pas elle qui m'a soutenue quand je me suis engagée dans les mouvements féministes. Elle trouvait ça vraiment déplacé, pas bien. J'ai été élevée dans une éducation où il fallait rester dans le rang.
On a du mal, Laura Adler, à vous imaginer en jupe plissée bleu marine, chemisier blanc et chaussures vernies.
Ben pourtant, c'était ça.
C'était le cas.
Ah oui.
Et au fond, vous étiez comme ça, vous étiez rangée, sage, vous étiez un peu rebelle, baroudeuse.
C'est difficile de parler de son enfant, mais j'étais pas dans les normes, j'étais pas dans les catégories, j'étais plutôt garçon manqué. Il manquait toujours un bouton, parce que je me souviens que cette jupe plissée tenait par deux boutons à l'avant. Et maintenant que vous m'en parlez, il y avait toujours un bouton que j'avais arraché par mégarde en montant dans un arbre ou en sautant une haie. Donc j'étais toujours dépenaillée. Ça, c'était un mot qu'aimait bien utiliser ma mère pour me définir, dépenaillée. Oui, d'ailleurs, je suis toujours un peu dépenaillée. J'étais pas dans le rang, vraiment pas dans le rang. Je sais pas pourquoi, j'avais les genoux cagneux, j'étais maigre. Je pensais plutôt monter dans les arbres que d'aller au catéchisme. Donc voilà, il fallait me remettre dans le droit chemin assez souvent. Et j'étais très moche.
Ah, vous étiez très moche.
Ah oui, d'ailleurs.
Là aussi, on a du mal à l'imaginer.
Je me considère toujours très moche. J'étais née avec une bosse sur le nez. C'était un problème congénital, c'est pas très intéressant d'ailleurs ce que je vous raconte, mais ça a beaucoup marqué mon enfance et mon adolescence, parce que j'ai failli en mourir, j'ai eu une infection qui est devenue gravissime, parce qu'en Afrique, le système de santé là où j'habitais était pas formidable. Mais bref, j'avais quelque chose au milieu du visage qui faisait que j'étais pas comme tout le monde. D'autre part, j'avais les oreilles décollées, donc on m'appelait Boeing 747. Donc, j'étais pas dans le rang de la parfaite petite fille que j'aurais dû être.
Il y a d'autres figures qui ont beaucoup compté dans cette enfance, Laura Adler. C'est les grands-parents. Plus exactement, les grands-mères. D'ailleurs, là aussi, dans le dictionnaire intime des femmes, vous écrivez « Mes deux grands-mères ont joué un rôle important dans ma construction et ma compréhension du monde ». Vous nous parlez de Germaine et de Marguerite ?
Oui, elles ont été très importantes parce que mes parents avaient le droit de revenir d'Afrique tous les deux ou tous les trois ans. Mais mes parents avaient décidé que nous, les filles, on irait passer tous les étés en France. Donc, on partait toutes seules en avion, ce qui était une véritable aventure à l'époque. Et on se retrouvait en France, qui n'était pas notre pays. Et la France, c'était mes grands-mères. Les vacances duraient très longtemps, pratiquement 3 mois, et je passais la moitié du temps chez ma grand-mère maternelle et l'autre moitié du temps chez ma grand-mère et mon grand-père paternel. Donc, du côté de mes grands-parents paternels, c'était l'Auvergne, c'était une bourgade qui s'appelle Mauriac. Mon grand-père était paysan et ma grand-mère était institutrice. Ils m'ont appris tous les deux beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils m'ont appris aussi, d'une certaine façon, à lire, à compter, à savoir traire les vaches, à m'occuper des poules, à m'occuper des animaux à la ferme, à aller garder les vaches.
Vous dites
une autre nature que celle de l'Afrique.
Vous dites que Marguerite vous a appris à faire chabrot. Qu'est-ce que ça veut dire, faire chabrot ?
Faire chabrot, ça veut dire que tous les soirs, en Auvergne, en tout cas dans l'éducation auvergnate que j'ai reçue, on mange une soupe pour débuter le repas. À l'intérieur de cette soupe, on met des morceaux de pain. Et après les morceaux de pain, on met un peu de vin. Ça s'appelle faire chabrot. C'est pour bien commencer la soirée. C'est interrompre le repas, mais prendre de la force pour pouvoir continuer à avoir un peu faim et se sentir en forme grâce à l'alcool.
Vous parlez de l'Auvergne, Laura Adler. C'est à Clermont-Ferrand que vos parents sont revenus. Alors là, c'est en 1967, je crois que vous aviez 16 ans et demi. Votre mère n'était pas du tout contente, elle était même plutôt malheureuse d'être revenue sur le territoire français. À Clermont-Ferrand, elle s'ennuyait. Alors que vous, vous arrivez au lycée Jeanne d'Arc, lycée de filles à l'époque. Et là, c'est un peu la révélation, parce que vous découvrez la philosophie.
Grande révélation.
Avec le professeur Jean-Claude Beaune.
Oui.
C'est ça ? C'est lui surtout qui vous a beaucoup appris.
Oui, c'était d'ailleurs assez étonnant quand j'y repense aujourd'hui de savoir qu'il y avait un professeur homme dans ce lycée de filles. Mais il a été extraordinaire et il a été un professeur qui nous a appris à ouvrir un texte de philosophie, à comprendre des auteurs. Il était à la fois très exigeant et très vivant. Il était à la fois très présent et en même temps très respectueux de chacune d'entre nous. Et il savait bien qu'il nous éveillait à une discipline qui pouvait devenir cardinale pour certaines d'entre nous. Et d'ailleurs, il y a deux de mes camarades de classe qui ont fait des études de philo comme moi, grâce à lui. Alors c'est un peu une banalité aujourd'hui de dire que dans l'éducation, il y a souvent une professeure ou un professeur qui tout d'un coup indique un chemin à un adolescent qui ne sait pas très bien quoi faire. En tout cas, moi je fais partie de ces gens-là, c'est grâce à ce professeur que je suis tombée amoureuse de ce que ça voulait dire la philosophie. On a commencé par Kant, ensuite on est passé à Hegel, ensuite on est passé à Jean-Paul Sartre, ensuite on est passé à Merleau-Ponty, autant vous dire des philosophies très différentes, mais qui à chaque fois me permettaient de penser et nous permettaient de penser, parce que ce professeur donnait l'accès à une communauté de pensée à l'intérieur de sa classe, qui est quand même absolument extraordinaire, et ce dont je le suis très redevable, qui est une grande leçon. On ne pense jamais seul. Il faut toujours une dynamique pour pouvoir être avec les autres. Et quelle est l'importance de l'autre, avec un grand A, etc. Tout ça, c'est Jean-Claude Beaune qui nous l'a appris. Donc, il y avait une sorte d'excitation, d'émulation, d'intelligence collective et de plaisir de lire et de comprendre.
Et puis un peu plus loin, il y avait un certain Michel Foucault qui donnait un séminaire à Clermont.
Il était à l'époque, effectivement, à l'université de Clermont-Ferrand, et nous avions le droit de franchir les portes de l'université pour aller écouter son séminaire. Donc, si vous voulez...
Puis on était une émulation intellectuelle.
Plus que ça, il y avait aussi, parce qu'il faut aussi le préciser... Moi, après, je suis devenue ce qu'on appelle une historienne des mentalités, c'est-à-dire une historienne qui pense, comme la plupart des historiens des mentalités, que tout dépend du contexte, pas seulement économique, pas seulement du monde sensible, mais aussi de l'air qui nous environne. Et c'était une période d'émancipation des jeunes, où nous avions l'impression que nous existions, que nous étions accueillis par les générations plus âgées que les nôtres, et Jean-Claude Beaune était justement l'incarnation de ce professeur qui nous attendait dans la vie adulte, mais il n'était pas le seul, parce qu'on sentait que le monde nous attendait, que les jeunes générations allaient rentrer dans le monde, entre guillemets, actif, que nous allions y être accueillis. Je dis ça avec un peu de nostalgie, parce que j'ai un peu l'impression qu'on maltraite nos jeunes aujourd'hui. Et quand je vois encore... dans les journaux s'afficher en une que les jeunes ont envie de se suicider, quand je vois que les jeunes n'ont pas envie de faire l'amour, quand je vois que cette impulsion de vie est en train de décroître, mais c'est parce qu'on les traite très mal. Je suis pas nostalgique du passé. Michel Serres, à qui je dois beaucoup, avait raison de dire « ça n'a jamais été mieux avant, c'est mieux maintenant ». Et je pense aussi, comme Michel Serres, qui a été mon professeur aussi plus tard, que ça sera mieux plus tard. En tout cas, c'est une espérance. Mais par contre, le constat objectif, c'est que je trouve qu'en tant que personne âgée, je trouve que nous n'accueillons pas nos jeunes comme nous étions accueillis à l'aube des années 70.
Pourtant, vous avez fait une fugue, vous. Vous avez quitté vos parents, je ne sais pas si vous accueillez bien, mais vous êtes parti, parce que ça vous suffisait quand même pas, l'environnement de Clermont. Il a fallu aller voir ailleurs, et le ailleurs, c'était à Paris.
Oui, mais moi, je fais partie d'une génération où la majorité était à 21 ans, mes parents voulaient pas que je sorte, mes parents voulaient pas que je vive ma vie. Eh bien, écoutez, il y en avait plusieurs qui, comme moi, ont de manière... romantique, fait comme dans les romans anciens,
c'est-à-dire que... cliquer ses claques.
Je me souviens encore très bien d'avoir tiré mes deux draps de mon lit, les avoir noués ensemble, être descendu par la fenêtre, avoir attendu 2 heures du matin et d'être parti sans rien et d'être monté à Paris comme ça en faisant du stop. D'ailleurs, ça a été une des raisons de 68. C'est parce que, justement, la société était bloquée, les jeunes n'avaient pas accès à une véritable citoyenneté, à une véritable reconnaissance. Et ça bouillonnait partout, pas seulement à Paris, dans les rues du Quartier Latin, mais y compris à Clermont-Ferrand. Donc voilà, on a fait partie d'une génération qui voulait prendre peut-être les devants et essayer d'assumer notre rôle de manière pleine et entière. Aujourd'hui, 18 ans, c'est à l'époque, c'était avoir 25 ans. Moi, j'étais considérée comme une éternelle mineure qui devait rentrer à 18 heures, faire ses devoirs, dîner à 19h30 et aller au lit à 22 heures, quoi.
D'ailleurs, on avait des enfants, non pas à 27 ans en moyenne comme aujourd'hui, mais bien plus tôt, bien plus jeune, et ça a été votre cas.
Oui, ça a été mon cas.
Vous avez été mère très très jeune. Avec un homme que vous avez rencontré, alors loin de Paris, loin de Clermont, en Israël, où vous avez passé plusieurs mois, presque un an, je crois, dans un kibboutz.
Il y a eu un moment, oui, où je me suis interrogée. Là aussi, je ne suis pas très originale. Il y avait beaucoup de personnes de ma génération, filles comme garçons, à l'époque. Au moment où nous parlons, ça n'est plus le cas. Mais à l'époque, Israël était une terre où on avait envie d'aller, une terre où se pratiquait une démocratie maximale, une terre où on pouvait inventer sa vie et une terre où on pouvait vivre de manière collective. N'oublions pas que 68, ça a été le collectif quand même. On était un parmi d'autres. Et donc, à cette époque-là, Israël représentait la possibilité d'aller vivre dans un collectif qui s'appelle le kibboutz. Il y en a encore en Israël. Hélas, beaucoup moins qu'à l'époque où j'y suis allée. Je me suis retrouvée dans un kibboutz à la frontière du Liban. Et j'ai découvert une vie collective assez dure d'ailleurs, parce qu'on se réveillait très très tôt le matin pour essayer d'aller être, dès le réveil du jour, dans les champs et dans les vergers. Et on travaillait avec des jeunes Israéliens, il y avait quelques Américains, il y avait quelques Français, et on travaillait dans le collectif. Et on vivait toute la journée ensemble, et on partageait tout. Moi j'ai adoré cette expérience, adoré. Et d'ailleurs, il y a eu un livre, il y a quelques années, d'une Israélienne qui raconte ces années où avoir 20 ans dans un kibboutz, c'était un moment de partage, de revisitation du monde. Parce qu'on était coincés aussi entre une vision des États-Unis. N'oublions pas que c'était le pays impérialiste. C'était comme ça qu'on en parlait à l'époque. Ça faisait partie de la fabrique idéologique de cette période-là. Il y avait l'Europe qui nous paraissait beaucoup moins intéressante et fascinante qu'elle ne nous apparaît aujourd'hui parce qu'on n'en connaissait pas sa diversité. Et puis, il n'y avait pas la construction de l'Europe. Il était hors de question d'aller en Espagne, même pour y passer 3 jours parce que c'était franco. Donc, notre univers fantasmé qui est devenu réel pour moi, c'était Israël, le monde du kibboutz.
Et il faut dire que c'est essentiellement des kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre 2023. Laure Adler, retour en France, retour à Paris. Vous étiez en philo à la Sorbonne, vous aviez un professeur, Henri Biraud, qui donnait des cours de Yankelevitch.
Oui, mais j'en ai eu bien d'autres, dont un monsieur qui s'appelait Pierre Aubin.
Pierre Aubin.
Et qui est un très très grand professeur. Et puis effectivement, j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Vladimir Yankelevitch. Et cette période de la Sorbonne, pourtant tout le monde se moquait de moi parce que j'avais pas choisi la fac branchée, mais j'étais une provinciale qui...
C'était quoi la fac branchée?
Paris 1. Moi j'étais Paris 4. Et comme on était dans le sillage de post-68, c'était la fac soi-disant réac. Moi j'ai pas trouvé que c'était une fac réac. Mais de toutes les façons, on pouvait aller suivre les cours qu'on voulait. Et j'ai eu d'excellents professeurs. C'était des cours magistraux, même si on était après 68. Mais il y avait aussi des possibilités d'avoir des séminaires. C'était pas en toge, hein. Mais enfin, quand même, le savoir était d'un grand professeur, délivré vers des étudiants. Mais moi, ça me plaisait bien parce que ça nous permettait aussi cette espèce d'ascendant du professeur que nous respections. Ça nous permettait d'abord d'apprendre. On travaillait énormément, on prenait des notes. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de possibilité d'enregistrer, il n'y avait pas de polycopier. Donc c'était, comme on dit aujourd'hui, du présentiel. On avait l'impression de recevoir du savoir d'une manière absolument magistrale. Ils avaient beaucoup de différences d'âge avec nous, mais nous les respections. Et d'autre part, ils étaient très accessibles. Et il y avait toujours des espaces de séminaires où on était beaucoup moins d'étudiants et on pouvait discuter avec eux. Mais je veux pas dire de manière réactionnaire que le savoir doit descendre du professeur vers l'élève, mais je dois vous dire que j'ai bénéficié d'une éducation où j'ai appris grâce à des grands professeurs qui délivraient un savoir et que j'avais envie de connaître. Et que cette relation de cette délivrance du savoir m'a construite, je crois, plus tard, intellectuellement et psychiquement. Je pense que dans notre vie, il y a des périodes, moi c'est tout le temps, mais cette période-là particulièrement, que je revis d'une autre façon en étant redevenue étudiante, a été une période magique pour moi. Apprendre, c'est quand même la plus belle chose du monde. Et on ne peut pas apprendre s'il n'y a pas des gens qui savent vous apprendre. Et c'est une réciprocité. Moi-même, j'ai beaucoup enseigné aussi, y compris au lycée, puis plus tard dans plusieurs universités. Là aussi, c'est une communauté, c'est une fabrique de pensées communes, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous apporte quelque chose, et ce que vous recevez, vous allez l'échanger dans une possibilité d'émancipation par le savoir. Et moi, je crois beaucoup à cette émancipation par le savoir.
Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers l'histoire alors que vous étiez en philo et manifestement bien en philo ?
Ben, c'est parce que mon professeur avec qui j'étais en train de préparer une thèse de philosophie et l'agrégation aussi, puisque je voulais continuer après ma maîtrise avec lui, est tombé malade et que la secrétaire de la Sorbonne m'a dit « on peut vous en proposer deux ou trois autres » comme si j'allais chercher du poisson au marché, quoi. Et moi, j'avais une relation très forte avec ce professeur qui m'avait beaucoup accompagnée et qui m'avait beaucoup donné de l'élan, de l'espoir et avec qui j'avais construit une relation de confiance, y compris peut-être, on avait évoqué l'histoire de l'enseignement de la philosophie au lycée, etc., etc. Et donc, je me suis dit, je me voyais pas faire une préparation de philo très difficile avec quelqu'un d'autre que lui, comme quoi on s'attache à ses professeurs.
Vous avez préféré changer de voie.
Voilà, changer de voie. Et donc, j'étais une lectrice, comme beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque, de l'Observateur.
Le Nouvel Observateur, oui.
Il y avait à l'intérieur des pages idées, signées Jacques Ozouf, Mona Ozouf et François Furet, des idées qui me plaisaient beaucoup. Et donc, d'une cabine téléphonique, j'ai appelé la secrétaire de l'École pratique des hautes études. J'ai demandé un rendez-vous au directeur. J'ai été reçue.
Ça dit peut-être quelque chose d'une époque, mais en tout cas, vous entrez à l'École pratique des hautes études, vous vous lancez dans un travail sur les premiers féminismes qui fera l'objet d'une publication, d'un premier livre, Laure Adler, « À l'aube du féminisme, les premières journalistes », un livre publié en 1979 dont nous reparlerons dans la dernière émission de ces entretiens à voix nue. Merci pour cette première, on se retrouve demain, épisode 2, les studios de radio et les plateaux de télé. À demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Laure Adler, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.